FM, le journal. Myriam Leocadie Gonda.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La première session ordinaire du Conseil économique et social se poursuit au palais de la SEMAC à Bangui. Les conseillers économiques ont encore 39 jours pour étudier les dossiers des projets de loi avant l'adoption par l'Assemblée nationale. Le préfet de la Haute-Côte appelle les jeunes de sa localité à la responsabilité. Selon Thierry Evariste Biguinindi, la jeunesse est le fer de lance de l'unité et du renforcement de la cohésion sociale. Et en sport, le président de la Fédération centrafricaine de football est désormais membre du comité exécutif de la CAF. Il a été élu hier lors du congrès de la CAF tenu à Casablanca au Maroc.
Dira FM.
Poursuite à Bangui au palais de la SEMAC de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Ouvert le 1er février, ces assises de 41 jours vont permettre aux conseillers économiques de se pencher sur les dossiers des projets de loi avant l'adoption par l'Assemblée nationale. Des explications de Clément Debouté Bamba, rapporteur général et porte-parole du Conseil économique et social. Il était au micro de Simplice Sinclair Doyouane.
La loi fait obligation au Conseil économique et social de se réunir deux fois par an, en deux sessions ordinaires de 45 jours. La première session de l'année débute le 1er février et la deuxième session de l'année débute au mois d'août. Nous sommes là dans le cadre de la première session ordinaire de cette année. Deux types d'échanges. Une première organisation en interne. Le bureau retient certaines thématiques pour cette année 11, autour desquelles les conseillers vont être d'abord édifiés, puis renvoyés en section pour formuler des recommandations en partant de l'édification obtenue lors des communications. Et la deuxième partie, ce sont les différents projets de loi renvoyés par le gouvernement, ce qu'on appelle ici les demandes d'avis. Donc sur ces différents projets de loi, nous devons nous exprimer, donner notre avis, notre orientation, afin de permettre au gouvernement de structurer la dernière partie de la démarche vers l'Assemblée nationale, aux fins d'adopter ces projets de loi pour qu'ils deviennent effectivement des lois.
Dira FM.
Toujours à Bangui, la coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine, Najat Rochdi, a présenté ce vendredi 2 février à la presse le bilan de la réponse humanitaire en RCA pour l'année 2017. Un bilan certes positif, mais aussi complexe. Cela s'explique par l'augmentation des besoins au cours de l'année précédente due à la recrudescence des violences dans le pays, a indiqué Najat Rochdi.
Dans ce bilan, il était clair qu'on a pu démontrer qu'en 2017, 1,2 million de personnes ont pu bénéficier de l'assistance humanitaire dans tous les secteurs, vraiment confondus. Et l'objectif initial et la cible initiale était de 1,4 million. Donc nous n'avons pas pu forcément couvrir tous les besoins. Plus que cela, il y a eu des besoins qui ont augmenté tout au long de l'année. Cette année, malheureusement, nous avons une augmentation dans le nombre de personnes à couvrir et c'est 1,9 million de personnes qu'il faut assister avec de l'aide humanitaire, avec tous les problèmes que nous connaissons en termes de défis d'accès en termes de certains foyers de violence, mais c'était l'occasion aussi de réitérer notre engagement, de réitérer notre volonté de continuer à apporter l'assistance aux plus vulnérables avec une précision, c'est que quand nous apportons l'assistance humanitaire, ce n'est pas uniquement aux déplacés internes, ce n'est pas uniquement aux réfugiés, mais c'est aussi à la population affectée, à la population hôte.
Notons qu'avec une projection budgétaire de 515,6 millions de dollars américains, la communauté humanitaire prévoit de répondre aux besoins de 1,9 million de personnes en 2018. Elle fixe ainsi comme priorité principale la protection des civils.
Nous avons toujours la même détermination, nous avons toujours le même engagement, mais c'est très important de rappeler que les civils ne sont pas une cible, que les hôpitaux ne sont pas une cible, que les écoles ne sont pas une cible, et que quand on attaque les civils, quand on attaque les hôpitaux, quand on attaque les écoles, on attaque la partie de l'humanité qui est en nous. Et donc j'en appelle à tout le monde de respecter ça et d'arrêter d'attaquer les humanitaires qui ne sont là que pour apporter de l'assistance en toute indépendance, en toute neutralité et en toute impartialité.
Dira FM.
Autre fait d'actualité, la jeunesse est notre fer de lance de l'unité et de renforcement de la cohésion sociale. Tels sont les propos du préfet de la Haute-Coteau qui recevait le comité de la jeunesse préfectorale. Pour Thierry Évariste Biguinindi, aucune action visant à restaurer la paix ne saurait se faire sans l'implication de la jeunesse. C'est pourquoi il leur a demandé de redoubler d'efforts dans la sensibilisation pour le retour définitif de la paix dans la Haute-Coteau. On l'écoute ici au micro de Christian Oubalou.
J'ai rencontré la jeunesse juste pour leur dire que depuis Bangui, je suis au courant de tout ce qu'ils ont fait ici. Ils ont beaucoup œuvré pour la paix et quand je suis arrivé, ils sont toujours à côté de moi. On a essayé de faire chemin ensemble et maintenant que les choses commencent à s'établir, je les encourage et je les appelle à doubler la vigilance, à continuer toujours à œuvrer pour la paix parce que nous comptons beaucoup sur la jeunesse. C'est vraiment cette jeunesse-là qui est l'action de la paix ici, dans le Coteau et particulièrement dans la ville de Bria.
Depuis votre arrivée, les actions que vous avez menées ont permis à la jeunesse de se regrouper?
Oui, c'est important parce que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'ils étaient éparpillés à un certain moment donné par rapport à mes conseils. Ils sont tous regroupés. Il y a toutes les communautés qui sont là dans la jeunesse et vraiment ça m'a fait plaisir. Je sais que la cohésion sociale est là, mais c'est la paix qu'on cherche maintenant à la retrouver définitivement.
Actualité toujours à Kagabandoro cette fois-ci. La section des affaires civiles de la MINUSCA a commencé une série de formations à l'endroit des maires et des chefs de village des préfectures de la Kémo et de la Nanagrébizi. Une formation en collaboration avec le ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale sur les attributions de ces autorités locales et la bonne gouvernance. La première séance s'est tenue à Galafondo dans la préfecture de Kémo. Bitumba Tipo Tipo Mayoyo, coordonnateur de la section des affaires civiles de la MINUSCA, secteur centre, donne ici des précisions au micro de Marie-Chantal Lumba.
Former les chefs de village à leurs responsabilités, ils ont été formés aux notions de neutralité, équité et transparence, à la notion même de la prévention des conflits, à la notion de la protection des civils et puis à la technique de participation de la population à la prise des décisions au niveau local. Et nous avons aussi sensibilisé à la mise en place des conseils de village. Ce que j'ai à dire aux chefs de village, c'est juste de réitérer ce que Mme Lydie Gaoro, la préfète de la préfecture de la Kémo, leur a dit. Maintenant, ils sont équipés, ils ont une espèce de boussole pour pouvoir donc assumer leurs responsabilités. Parce que, à partir du moment où quelqu'un est nommé à un poste à responsabilité, et que cette personne ne connaît pas quelles sont ses attributions, quelles sont ses responsabilités, il est difficile de bien les assumer. Mais maintenant, ils sont outillés et ils sont à même donc de mieux assumer leurs responsabilités.
Un avis partagé avec les 60 participants, d'après Naguère Jean-Claude, maire de la commune de Galafondo.
Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que MINUSCA est venu nous former sur ce que nous ne connaissons pas. Nous agissons dans le désordre, mais aujourd'hui, nous sommes outillés. MINUSCA nous a montré comment gérer la population et comment vivre dans la cohésion sociale avec les peuples, dans la paix et l'entente dans notre communauté. Moi, personnellement, je suis très content pour cette formation. Avant, les chefs agissaient dans le désordre, mais aujourd'hui, nous avons compris comment gérer la population, comment faire la paix entre chrétiens et musulmans. Si MINUSCA peut organiser cette formation encore pour une deuxième ou troisième fois, cela va aider les chefs à très bien travailler.
Des propos recueillis par Marie-Chantal Lumba.
Guira FM, dossier sport.
La page sportive de ce journal, le président de la Fédération centrafricaine de football a été élu hier au comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football. C'était hier à Casablanca au Maroc lors du congrès de la CAFS. Il devient ainsi le premier président de la Fédération centrafricaine de football à rentrer au comité exécutif de la CAF. Lors du vote, il a obtenu 30 voix contre 23 pour son challenger, le président de la Fédération du Gabon. Pour Pour rappel, en novembre 2017, Gaïsouna était déjà élu comme président de l'Union des Fédérations d'Afrique centrale UNIFAC. Sport toujours préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, le coach d'Olympique Réal a déjà son schéma de jeu pour le 11 février à Alger. La capitale algérienne abritera le match aller de cette Ligue des champions entre Olympique Réal et Entente Sétif. Dans une interview aux médias, le coach de l'Olympique Réal, Étienne Moumoukouama Kopo, opte pour jouer en groupe pour éviter de prendre de but. Nous l'écoutons au micro de Fridolin Ouambombo.
Bon, souvent les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on joue beaucoup plus regroupé, les gens pensent qu'on joue beaucoup plus défensivement. Non, ça c'est un système, une stratégie mise en place. Nous avons des ailiers qui courent, des sprinteurs. Donc, comme ça, on va faire endormir. On va essayer de confondre nos adversaires. Ils vont penser qu'ils vont nous attaquer à fond, en bloc, et comme ça, on va les surprendre sur les contre-attaques.
Notons que Olympique Réal jouera son dernier match test contre la sélection de la Ligue de Bangui cet après-midi à 15h au stade Barthélémy Bogonda.
L'invité de la rédaction.
Notre invité de la rédaction est Issa Mohamed, commissaire de police principal à la police des Nations Unies. Avec Boris Gouagouni, il nous parle de la contribution de la police des Nations Unies dans le cadre du recrutement des 500 policiers et gendarmes avec les examens médicaux qui viennent de prendre fin ce 31 janvier à Bangui. Suivant.
Issa Mohamed, commissaire de police principal à la police des Nations Unies, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Que retenir des examens médicaux dans le cadre du recrutement des 500 policiers et gendarmes?
Bien, je crois que ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est à travers évidemment ce que les candidats eux-mêmes, leurs proches et parents ont dû voir en ce qui concerne l'organisation qui a été faite. À notre niveau, nous avons essayé de mettre tout en œuvre pour que les visites médicales se passent dans les conditions les meilleures du point de vue organisation, accueil, identification et vérification des candidats. Et je pense à mon humble avis qu'à ce jour, les visites se sont assez bien déroulé. Nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs en dehors de quelques petits problèmes, très souvent dus à des confusions de noms ou alors des gens qui n'avaient au préalable pas vu les listes qui venaient vers nous et on leur donnait le renseignement exact. En dehors de ces quelques cas enregistrés, je crois que dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé.
Quels ont été les hôpitaux mis à contribution dans le cadre de ces visites médicales?
Dans le cadre de ces visites médicales, nous avons eu deux hôpitaux mis à contribution. Premièrement, je vais parler de l'hôpital de la direction des services de santé des forces armées centrafricaines qui est le siège où les examens laboratoires étaient exploités. Et naturellement, vous peut-être ne l'ignorez pas, ces visites médicales ont été faites, n'est-ce pas, avec la collaboration étroite, n'est-ce pas, de la direction des services de santé des armées. D'ailleurs, c'est eux qui étaient en réalité chargés même de l'exercice, même des opérations, même en ce qui concerne les visites médicales proprement dites. Donc, leur hôpital a servi où c'est de base, puisque à l'heure actuelle, les différents prélèvements sont en train d'être exploités à leur niveau. Donc, leur hôpital sert de base en ce qui concerne les analyses de laboratoire. Le deuxième site qui a été utilisé, c'est celui de Bimbo, du centre hospitalier universitaire Maman Elisabeth Domitien de Bimbo. Et à ce niveau, les candidats étaient soumis à la radiographie pulmonaire. En réalité, le site de l'école de police était un peu la base de lancement de toutes les opérations parce que c'est à ce niveau que nous avons reçu les candidats pour le prélèvement et pour l'examen général. Lesquels prélèvements étaient donc conduits au niveau de la direction de santé, comme je vous l'ai dit, et ceux qui devaient aller pour la radiographie du côté de Bimbo étaient également conduits sous escorte avec des bus ONU tels que vous l'avez vu.
À ce jour, que peut-on retenir du nombre de personnes qui ont passé cette visite médicale?
Bien, en ce qui concerne le nombre de personnes, étaient attendus les 500 candidats de la liste principale. Et à ce jour, au sorti de nos statistiques, nous avons 494 candidats qui sont régulièrement passés au niveau de leur visite médicale. 3 candidats ont été enregistrés absents jusqu'à ce jour. Et il y a trois candidats, malheureusement, je peux dire qui également étaient absents parce qu'ils ne se sont pas présentés eux-mêmes. Mais en leur lieu et place, c'est des frères, des cousins qui se sont présentés qui, malheureusement, ont été vite rattrapés par les vérifications que nous avions mises en place et qui, naturellement, ne sont pas passés aux visites médicales. C'est pour ça que j'ai dit on a enregistré trois absences vraiment régulières et trois cas de tentatives de substitution.
Quelle sera la suite? À quand les résultats?
Bien, en ce qui concerne la suite, je pense que ce sont, n'est-ce pas, les travaux qui seront faits actuellement au niveau de la direction de santé, notamment la transcription des différents résultats sur les fiches des candidats. Toute chose qui va donner lieu à un travail en commission. C'est-à-dire les médecins vont se réunir en commission pour statuer au cas par cas sur l'aptitude ou non des candidats. Alors, à mon niveau, en tant qu'une personne qui n'est pas très très experte dans le domaine purement médical, je crois qu'il m'est difficile de donner, n'est-ce pas, un temps précis. Toutefois, je crois que les équipes sont en train réellement de s'activer et tout notre vœu, c'est que le plus vite possible, n'est-ce pas, ces résultats soient disponibles pour nous permettre de voir dans quelle mesure procéder à des remplacements avec des candidats qui sont au niveau des listes d'attente. Donc en termes de délai, je ne peux pas le donner, mais je sais que les équipes s'activent et que très bientôt les résultats pourraient être à notre disposition.
Pour terminer, quel est votre message à l'endroit des candidats qui sont maintenant prêts pour démarrer leur formation et aussi à l'endroit de toute la population centrafricaine concernant ce processus de recrutement des 500 policiers et gendarmes?
Ce que je peux dire à l'heure, c'est tout simplement que c'est un processus qui a commencé il y a pratiquement un an et je sais qu'à un certain moment la population a cru que peut-être il y avait un certain blocage, un certain nombre de problèmes. Je leur dis non, il faut faire confiance aux hommes qui ont été placés, notamment toute l'équipe UMPOL de la MINUSCA qui a été placée, n'est-ce pas, pour ce processus, également à tous les autres partenaires nationaux, le PNUD ainsi de suite qui ont participé. Vous savez, nous sommes dans un contexte assez délicat post-conflictuel et la machine administrative dans l'ensemble se met progressivement en place, encore qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la première après environ une dizaine d'années où les concours n'ont pas été lancés parce que c'est depuis 2009 que les concours n'ont pas été lancés. Alors il fallait remettre en place tout ce mécanisme, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'aujourd'hui avec l'aboutissement presque de ces visites médicales qu'il marque en fait la fin du processus en ce qui concerne le concours, je pense que les populations devraient plutôt nous faire confiance. Les élèves qui auront réussi seront intégrés dans les écoles.
Issa Mohamed, commissaire principal de police à la police des Nations Unies, je vous remercie.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
Et c'est donc la fin de cette édition sur les ondes de la paix. C'était l'œuvre de toute la rédaction de Guira FM. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à Aimé Doudou à la technique, à la présentation. Je suis Myriam Lokadi Gonda. Passez un agréable week-end en compagnie de Guira FM. Au revoir.